Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue au podcast de la rédaction de Game Info. Cette semaine, je serai en compagnie de Ben.
Salut à tous.
Et d'ATH.
Bonjour tout le monde.
Au sommaire de l'actualité, cette semaine, on vous parlera de Too Dark, on enchaînera sur une traduction amateur, nous parlerons également de tout un tas de jeux qui m'ont l'air fort sympathiques, à savoir Yeek, Pyre, Seven. On enchaînera sur un certain Outlast 2, je crois que ATH aura des choses à dire sur le sujet, n'est-ce pas? Nous évoquerons également Nier Automata qui a reçu enfin une vidéo de gameplay, et pour terminer, nous parlerons de la prochaine extension de The Witcher 3, Blood and Wine. Ben, nous allons commencer, n'est-ce pas? Avec un système de sauvegarde un peu particulier sur Too Dark. Alors Too Dark, je rappelle, c'est un jeu de monsieur Frédéric Reynal. Frédéric Reynal, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est le papa du genre horreur, hein, Alone in the Dark, tout ça. Donc c'est un jeu d'horreur en vue du dessus, en voxel. Et je crois, Ben, en plus, qu'on a appris une chose très intéressante cette semaine, notamment par rapport à son système de sauvegarde.
Ouais, exactement. Ouais, comme c'est un jeu qui se passe dans les années, voilà, dans les années 70, à l'époque tout le monde fumait, etc. C'était un peu dans la coutume. Et ben du coup là, pour sauvegarder sa partie, il faudra prendre le temps de fumer une cigarette. Et le problème qu'il peut y avoir, c'est que pendant ce temps-là, on est inactif, donc on peut se faire repérer. Donc ça veut dire que le système, on pourra entre guillemets sauvegarder quand on veut, mais il faudra quand même pouvoir avant se mettre à l'abri, se cacher, enfin il faudra que voilà, il y aura des petites astuces à faire parce que du coup on est plus facilement repérable à ce moment-là.
Et en plus, petite featurette, ouais. Pour les flippettes, n'est-ce pas, que nous sommes.
Voilà. Donc si on sauvegarde trop, ben notre personnage se mettra à tousser et forcément qui dit tout, dit bruit et pareil, il peut se faire repérer plus facilement. Donc ce qui est original en fait, c'est de pouvoir sauvegarder quand on veut, mais que ça crée quand même entre guillemets un problème de trop sauvegarder aussi, quoi. Et ça, je trouve ça vraiment sympa.
Bah disons que ça crée une pression sur le joueur, quoi. C'est-à-dire que t'es jamais à l'abri et du coup ça te pousse aussi, je pense, à être plus prudent, parce que c'est pas un jeu tu vas pouvoir sauvegarder comme ça, genre F5 recharger, F5 recharger. Exactement. F5 recharger, tu sais, cette fâcheuse habitude qu'ont les PCistes de faire F5 quick load à chaque fois.
Et la vraie question dans tout ça, c'est est-ce que Shinji Mikami va le reprendre dans son prochain jeu, hein, parce qu'il a quand même volé quasiment tout le concept d'Alone in the Dark dans Resident Evil.
ATH, il a quand même après inventé le genre TPS, tout ça. Donc je pense qu'il s'est racheté depuis.
Il a quand même volé quelqu'un, quoi. Il a quand même plagié, quoi. Donc.
Oui, non, mais enfin après, à ce compte-là, tout le monde a plagié. Enfin, moi, ce qui me gêne surtout, c'est qu'à l'époque, il n'avait pas reconnu qu'il s'était inspiré du jeu.
C'est ça, c'est ça. Enfin, c'est pendant beaucoup de temps, il l'a pas avoué publiquement. Et puis, c'est juste, je crois, en 2014, en 2015, qu'il a dit, ouais, en fait, j'ai. Oui, on a joué à Alone in the Dark.
Bon, dans tous les cas, moi, ça me fait plaisir de me dire, tu vois, qu'il y a quelqu'un qui réfléchit au genre survival horror et qui essaye d'inventer de nouvelles choses. Hein. Depuis qu'on a eu la formule Amnesia, je trouve qu'il y a beaucoup de jeux qui copient Amnesia sans forcément hyper innover. Alors après, moi, le seul souci que j'ai avec, c'est que techniquement, enfin graphiquement, c'est pas du tout ma gamme. Hein. L'espèce de vue du dessus, là, avec en voxel, tu sais, un peu carré. Bon, je suis pas sûr que ce soit un style très approprié pour un jeu d'horreur.
Mais moi, justement, je trouve ça intéressant, le style graphique. C'est vachement décalé par rapport à un jeu survival horror. Tu t'attends pas à avoir un style graphique comme ça. Moi, j'aime bien aussi l'idée du concept pour fumer, pour sauvegarder. Parce que en fait, quand tu fumes, il précise bien que ça prend du temps. Donc, ça veut dire que pendant ce temps-là, tu peux peut-être te faire attaquer. On peut supposer ce genre de choses-là et... Si tu meurs pendant que tu sauvegardes, t'as un peu les boules, quoi.
Puis quand tu tousses alors qu'il y a des tueurs en série un peu partout dans la pièce, bon... Coucou, je suis là.
C'est vachement sympa, l'idée. Et après, on espère que le jeu sera à la hauteur de ses ambitions, quoi.
ATH, tu vas garder la parole. Et tu vas nous parler d'un projet amateur, ma foi, qui a l'air très intéressant. C'est une traduction, je crois.
Exactement. Donc, je vais vous parler de Mother 3. Qui vient d'avoir une traduction en français par des fans. Pour les 10 ans de la série, en fait, ils ont sorti la traduction le 20 avril 2016 pour fêter justement l'événement.
Enfin, c'est les 10 ans de la série, les 10 ans de Mother 3.
Ouais, les 10 ans de Mother 3, excusez-moi. Et en fait, ça a été réalisé par Jumpman et son équipe. Je vous invite aussi à écouter le podcast Au bas gauche droite où ils ont invité justement ce Jumpman qui a parlé de comment il a pu faire la traduction en français de ce jeu-là. Je rappelle quand même que la traduction elle a été faite à la base de la traduction anglaise, donc c'est pas une traduction qui est on va dire 100% fidèle à la version japonaise, parce que surtout qu'il y a eu beaucoup de problèmes d'adaptation où ils ont pas mal
Il y a des trucs qui sont typiques de la culture japonaise dedans, il faut bien adapter ça au public anglophone déjà à la base.
Voilà.
Et je pense que du coup il va falloir en plus adapter du public anglophone au public français. Donc
En fait tu vois par exemple juste un truc tout con, il disait que juste pour les références au Japon ils avaient mis des mangas, la version américaine ils ont mis des comics, alors eux pour le souci d'adaptation ils ont mis la BD franco-belge, tu vois.
Ouais, et puis même il y a des trucs aussi, tu as dit il y a des questions que tu te poses quand tu traduis, par exemple est-ce que je le laisse comme ça ou est-ce que tu vois j'essaye d'adapter parce que il y a des expressions en fait qui ont de sens qu'en anglais quoi, si tu veux.
Ouais,
en fait.
Bah justement par rapport à ce souci là il y a un personnage qui s'explique un peu si tu veux que avec un argot, mais sauf qu'elle ne parle pas tout le temps avec un argot, et il s'est dit est-ce que justement ce personnage là devait tout le temps parler avec un argot, ou bien est-ce qu'il pouvait
dans certaines situations précises elle utilisait un argot
Et le problème en fait c'est qu'en français ils n'avaient pas d'équivalent pour mettre certaines phrases ou même certains jeux de mots. C'est vraiment quelque chose d'assez compliqué. Moi je vous invite en tout cas à suivre le patch, parce qu'en fait c'est un truc, il y a eu quand même un bêta test qui a été fait avec un panel de personnes qui a été sélectionné pour justement les aider. Il y a eu quand même plus de 6500 dialogues qui ont été traduits. Moi, c'est un jeu que j'ai pas fait parce que...
Pas traduit, hein.
Voilà, non, mais qu'en japonais, etc. Donc, une fois que j'aurai fini de jouer à Dark Souls 3, je vais peut-être me lancer dans Mother 3, quoi.
Bon, bah, dans tous les cas, merci à la communauté de traduction amateur, hein. Ben, nous deux, je pense qu'on leur doit pas mal de choses parce que... Enfin, moi, je sais pas pour toi, mais je sais qu'il y a plein de jeux que j'ai fait uniquement grâce à la communauté de traduction, qu'elles soient anglophones ou francophones.
Hein. Ah oui, non, ouais, notamment à l'époque, il y avait beaucoup d'anglophones qui traduisaient du japonais. Pour tout ce qui était JRPG, c'est vrai que c'était une aubaine parce qu'il y a plein de jeux auxquels on n'aurait pas pu jouer sinon. Donc, c'est...
Moi, typiquement, Final Fantasy VI.
Enfin, c'est du boulot énorme, donc on peut que dire merci aux gens qui prennent le temps de faire ça. Enfin, ils gagnent rien à faire ça, c'est vraiment que pour faire plaisir aux gens, entre guillemets. Donc chapeau quoi.
Moi Chrono Trigger sur Super NES je l'ai en français.
Ah merde. Je vous mettrai les liens vers l'émission dont t'as parlé ATH. Je vous mettrai également un lien vers le site de traduction pour que vous voilà vous puissiez vous la procurer. Hein. Puis voilà. Nous ici on est très open vis-à-vis de l'émulation, n'est-ce pas? Il y a aucun souci. This is a story about what happens when you look for someone who can't be found, and the strange things you invite into your life when you go to forbidden places.
Excuse me, but perhaps you have mistaken this for another floor? This is the library. I can't imagine you're here to read all these old books.
Alors je vais vous parler maintenant d'un jeu qui... Ah bah justement, ça m'a fait un peu pour ça Mother pour le coup. Ça s'appelle Yik, Y-I-I-K, hein, pour ceux qui se posent la question. Je ne sais pas comment ça se prononce, ne me demandez pas. Pour décrire ce jeu, On va dire que c'est un croisement entre Mother, Persona et Shadow Hearts pour le système de combat. Voilà.
Démerdez-vous avec ça.
Démerdez-vous avec ça. Alors, c'est un jeu indépendant sous acide. Je pense que les mecs ont pris pas mal de drogue avant de faire ça. Parce que c'est assez kitsch, coloré, très hipster aussi, je trouve. Notamment dans le look des persos, quoi. Et en gros, l'histoire, si tu veux, c'est qu'il y a une nana qui a été enlevée, donc. Parce qu'on, enfin, on sait pas ce que c'est. On voit juste une vidéo, en fait, d'un ascenseur où elle disparaît. Cette vidéo a été diffusée apparemment sur Internet. Ça se passe dans les années 90, hein, vu les sites Internet qui sont montrés. Tu sais, c'est les sites Internet à l'ancienne, tu sais, tout en noir, avec une structure un peu dégueulasse, tu vois. Et ils vont se lancer dans une quête pour retrouver cette femme. Et ils vont visiter des lieux. Enfin, je sais pas si c'est des lieux qui existent vraiment ou s'ils ont juste pris de la drogue, parce que c'est des putains d'épis. Mais en tout cas, vous, dans l'idée, ça ressemble vachement à du Mother. C'est-à-dire que tu joues une bande de pecno lambda qui se lance dans une grande aventure, quoi. Et puis, voilà que dire, si ce n'est que ça a l'air vachement chelou, quoi.
Ouais, c'est à peu près ça, le résumé, c'est que ça a l'air très chelou, ouais. Je sais vraiment pas quoi en penser après l'avoir vu, quoi. Je sais pas si j'ai envie d'y jouer, si ça m'attire pas, c'est vraiment spécial, ouais.
Ben, en fait, moi, déjà, il y a un truc qui me dérange, si tu veux. Alors, certes, l'esthétique, j'aime bien. Par contre, le côté, tu sais, animation toute pourrie, c'est pas ma cam. Enfin, hein, tu sens que c'est fait exprès, tu vois, mais des fois, je trouve que, comment dire, sous le prétexte de faire des choses un peu artistiques, tu vois, t'as franchement l'impression par moment que c'est un peu n'importe quoi, en fait. Et je sais vraiment pas en quoi penser. Et enfin, en fait, j'attends d'y jouer pour voir si c'est vraiment quelque chose de cohérent, tu sais, à la Undertale, ou enfin voilà, ça te fait vivre une expérience particulière, ou si c'est juste un truc que tu sais, regardez, je suis indé, je suis original, je fais une direction artistique un peu chelou, on dirait que j'ai pris de la drogue, achetez-moi.
Ouais.
Je sais pas ce que tu en penses, ATH, toi qui es fan de Mother.
Mother, en fait, comme c'est en 2D, ça laisse beaucoup de place à l'imagination. Là, le problème, c'est que c'est un 3D et moi, ça me sort totalement du jeu, ce que je suis en train de voir. Le mec qui se bat, qui balance une platine de mixage de DJ là. Tu vois, dans Mother, ça pourrait le faire parce que tu vois pas l'animation justement où il y a cette plaquette de mixage qui apparaît, qui la balance sur la gueule de l'ennemi. Tu vois juste les effets des attaques, mais tu vois pas vraiment ce qu'il balance, etc. Même si tu sais que ton personnage il a une botte de baseball comme arme, c'est pas une arme que tu vois directement représentée à l'écran. Là, le fait que ça soit comme ça, bah je me dis vraiment, est-ce que ça va être intéressant finalement, ou c'est juste un trip, voilà, comme tu le dis, un dé, ça y est, c'est un dé, donc ça doit être bien, tu vois.
Alors après, j'ai envie de te dire, ATH, il y a beaucoup de, enfin, la quasi-totalité des RPG sont comme ça. Alors pourquoi ça te dérange dans ce cas précis? C'est parce que c'est un setting moderne, donc du coup t'as du mal à dire le truc, ou enfin c'est quoi le...
Il y a ça, et puis le parti pris esthétique, je te mets de la couleur en veux-tu en voilà, violet, or bleu, quand ils se baladent dans la ville où tu vois les personnes qui sont représentées comme une ombre de couleur.
Ah oui, d'accord, oui, tous les appâts de couleur.
Voilà, ça fait vachement penser à du LSD, quoi.
oui. Donc, ah non, mais là, totalement.
C'est pour ça que moi, c'est pas enfin, pour l'instant, c'est... Au début, quand j'ai lancé la vidéo, je m'attendais à un petit truc sympa. De ce que j'en ai vu, bah, ça peut être sympa, mais je suis pas tenté, en fait.
Bon, bah écoutez, on verra. Il sort sur plein de plateformes, ce jeu, hein. Il va sortir sur PS4, Vita, Wii U, PC, Xbox One. Enfin, comme tous les indés, hein, j'ai envie de dire, ça bouffe à tous les râteliers, normal. Ils annoncent 25 heures de jeu, à peu près, ce qui est respectable, hein, pour un jeu indé. Je rappelle quand même, Undertale, c'est moins de 10 heures de jeu, hein. Mais après, c'était 10 heures qui étaient excellentes.
Ouais.
Il me semble pas qu'on ait de date de sortie pour le moment, donc voilà, on suivra le projet. Alors par contre, là, on va parler d'un RPG, lui aussi, dont on n'a pas vu grand-chose. C'est le prochain jeu de nos amis chez Supergiant. Alors Supergiant, hein, je rappelle, Bastion, Transistor, hein, que des jeux qui avaient de la putain de gueule sa race, quoi. Et là, donc, ils nous ont balancé un trailer. Alors là, pour le coup, on est plus du tout dans le même univers, hein. Comment dire? Je sais pas pour vous, mais justement, ça fait du bien, tu vois, de voir un jeu en 2D. Alors, je pense pas que ça soit de la 2D, parce que, à mon avis, c'est fait sur Unity et les persos en réalité sont en 3D, mais on va dire style 2D, tu vois, où t'as une animation, mais qui tue sa race, où, enfin, ça a de la gueule à l'écran, quoi. Ça fait du bien, parce que Alors, j'adore le pixel art, mais quand même, ce genre de jeu, enfin, les jeux comme ça, en vraiment belle 2D et tout, je pense que c'est très rare, finalement, et... Enfin quoi, enfin un jeu en 2D qui t'envoie du pâté, et surtout, bon, voilà, ça a une identité usuelle de psychopathe, c'est du super géant, j'ai envie de dire.
Ouais, c'est à peu près ça, c'est... Il faut encore un peu différent de ce qu'ils ont fait avant. À chaque fois qu'ils font un jeu, ils changent un peu de style en gardant quand même certaines touches à eux. Mais c'est vrai que, enfin, moi j'ai beaucoup aimé Bastion. Et là, pour le coup, le trailer, ça a l'air top quoi. C'est y a un moment, on voit un peu de combat, ça a l'air ultra dynamique, c'est joli. Enfin bon, après c'est pareil, c'est un style, hein, faut aimer. Ça ne peut ne pas plaire à tout le monde, mais pour le coup, moi ça, je suis plus hypé sur ça que sur celui d'avant. Hein.
Tu n'es pas un hipster, Ben.
Non.
C'est scandaleux. Tu es très mainstream, je trouve.
Ouais, ça doit être ça.
Alors, pour le moment, sur le genre lui-même, on sait pas grand chose. C'est juste qu'en gros, on va jouer une bande de bannis, on va dire, qui ont été exilés et qui vont devoir, grosso modo, se racheter. Ou pas.
Ouais.
Bien évidemment, ça dépendra de nous. Alors, par contre, pour le reste, je veux dire, c'était tellement rapide, on n'a pas vu grand-chose du système de combat. Connaissant Supergiant, je pense qu'on peut compter sur eux pour poser un système intéressant. En tout cas, moi, Transistor, j'avais adoré, parce que c'était vraiment un système qui mélangeait du temps réel avec de la tactique. En gros, quand tu bougeais, tu sais, les ennemis bougeaient aussi. Enfin, ça permettait vraiment d'offrir un système dynamique pour ceux qui jouaient bourrin et ceux qui voulaient réfléchir. Bah, ils pouvaient se poser, quoi. C'était plutôt original et je suis curieux de voir, y compris en termes de système, ce qu'ils vont faire sur ce jeu, quoi. ATH, qu'est-ce que j'allais ajouter?
Je suis pas trop adhérent au parti pris esthétique de Bastion et Transistor. Là, je reconnais, en fait, si tu veux, la partie artistique de Super Giant Bomb. Je sais pas comment expliquer, c'est par rapport à mes goûts personnels, en fait.
Ah oui, non, mais ça, c'est...
Après, on me vend le jeu avec un scénario intéressant, tout ça, ça peut me plaire. Je suis plus dans le style 2D, plus manga. Par exemple, je suis plus client d'un Muramasa, tu vois, en 2D. Mm. Après, ça va pas empêcher, par exemple, de jouer à un jeu qui s'appelle Dust sur PlayStation. Je trouvais la direction artistique des personnages à chier, mais après le jeu en lui-même, j'ai trouvé ça sympathique, mais sans plus, quoi.
Ok. Bon, alors là, on va parler d'un projet, d'un studio qui a été fondé par des anciens employés de CD Projekt. Alors bon, le problème avec ça, c'est que une fois que t'as dit ça, t'as rien dit, parce que, oui, qui chez CD Projekt? Parce que j'ai vu, tu sais, plein de titres de news dans la presse, des fondateurs de CD Projekt Red, vous pouvez donner les noms, le CV exactement et les postes, parce qu'à chaque fois ça manque en fait quand tu dis ça, donc
ça veut tout et rien dire, c'est toujours pareil.
Voilà,
on sait pas ce qu'ils faisaient exactement.
C'est un peu tu sais comme les mecs par des anciens de Stalker, mais ouais. Il y a 36 milliards de personnes qui ont bossé sur Stalker,
ça,
les gens. Donc en tout cas, on va plus s'intéresser au projet qu'au CV des mecs pour le coup. Et là, c'est plutôt, alors pas tant en termes de direction artistique, mais plus en termes d'idées que le jeu m'intéresse personnellement. À savoir que c'est un jeu en vue isométrique, donc vue du dessus, isométrique, d'infiltration RPG, avec pas mal de freerunning, d'escalade, des choix aussi apparemment, qui détermineront l'issue de l'histoire. La partie infiltration-action, on l'a énormément vu, la partie freerunning aussi, mais par contre, les choix pour le moment, ça a été assez peu évoqué. La direction artistique, je la trouve assez quelconque, mais dans tous les cas, l'idée, je signe personnellement, je sais pas pour vous. En plus, le setting un peu, alors bon, il se la joue un peu genre en mode, oui, alors c'est pas du post-apocalyptique, c'est du beyond de post-apocalyptique. Oui, donc c'est du post-apocalyptique, d'accord.
C'est plus à la mode de dire post-apocalyptique, alors il fallait trouver autre chose, quoi.
Ouais, ça c'est le marketing, quoi.
Mais dans tous les cas, un concept original, alors après, j'ai peur, tu sais, qu'on te vende ça comme un RPG, alors que finalement, ça a l'air d'être beaucoup plus un jeu d'infiltration, quoi.
Ouais, ça a l'air beaucoup plus action, en tout cas, que RPG dans ce qu'on voit. Mmh. C'est limite un Assassin's Creed pour certaines parties, avec une vue différente.
Voilà.
Moi, le côté qui me fait un peu peur, bien que ça m'intéresse, c'est la caméra, en fait.
La visibilité,
voilà, parce qu'on voit qu'en plus, il se déplace donc sur plusieurs niveaux, il peut être sur des toits, il peut descendre. Et avec la vue qui est assez éloignée et son personnage qui est assez petit, j'ai peur que des fois on saute dans un trou sans le vouloir, ce genre de choses. Après, il faut voir comment ils arrivent à gérer ça. mais ça peut être un truc qui peut poser problème si c'est pas très bien fait. Mais par contre, après, ouais, il y a des éléments qui sont intéressants à voir comment ils arrivent à associer tout ça, mais ça peut être sympa.
Ouais, ouais, Ben, c'est vrai que je te rejoins là-dessus. La caméra, c'est un parti pris quand même assez risqué pour un genre de jeu comme ça. Normalement, on a toujours une caméra qui est derrière le personnage, ouais, assez proche. Après, le jeu en lui-même, la direction artistique me rappelle un certain Borderlands, un petit peu, tu sais, dans l'aspect cartoonesque un peu des personnages et justement le post-apocalyptique qui est là. Le problème, c'est que est-ce que le mélange de ce genre de gameplay, ça justement, ça va pas être n'importe quoi au final dans le jeu?
Bah, pour le moment, le truc, enfin, je veux pas dire, mais le gameplay, pour le moment, je trouve cohérent, parce qu'il n'y a pas du tout de RPG dedans, en fait.
Oui, voilà, dans la vidéo, on voit pas un élément de RPG.
C'est ça que je veux dire, tu vois, le RPG, à mon avis, ça va être que les dialogues.
Hein. Oui, ouais, peut-être un peu de leveling.
Tu sais, les stats qui vont permettre de débloquer certains
voilà,
mouvements.
Voilà, exactement, ouais.
Genre, tu sais, comme le nouveau Mirror's Edge. Ah oui, pour ceux qui sont pas au courant, dans Mirror's Edge Catalyst, pour faire un demi-tour, il faudra débloquer le mouvement.
Ah, d'accord. Bah, peut-être que, tu vois, ce qu'ils appellent RPG, c'est les capacités que tu débloques.
Ouais, ça se trouve, ça se limitera à ça.
Ah non, mais ils ont bien dit qu'il y aurait des dialogues et des choix, des conséquences.
Ouais, mais après, Batman, il y a du RPG dedans. Pourtant, tu dis pas c'est un RPG, quoi. Parce que quand tu sais, tu débloques... certains coups avec de l'XP quand t'as vaincu certains ennemis, tu gagnes de l'expérience et tu débloques des coups. Est-ce que on dit que c'est un RPG? Non. Pourtant, justement, il y a des mécanismes de RPG.
Ouais, ouais. Bah, c'est comme tous les FPS aujourd'hui, on te met des mécanismes de RPG.
Voilà, c'est ça. Mais après, pour revenir en jeu lui-même, ça me donne quand même envie, quoi.
Bah, déjà, c'est original.
Voilà. Non, mais ça, c'est original. En plus de ça, techniquement, je trouve que c'est propre et tout. J'ai envie de voir jusqu'où ils peuvent aller dans le délire de ces mélanges-là, justement, sans trop se manger, tu sais, par la partie infiltration, qui mange pas trop la partie RPG ou ce genre de choses-là. Si tu veux, j'ai envie que le jeu soit réussi, quoi, pour ce qu'il a montré. Et j'ai pas envie que ça soit une idée sympa sur le papier et qu'au final, c'est ça va être un jeu moyen ou bien totalement disproportionné en termes de contenu, tu vois. Par exemple, si t'as que de l'infiltration et au bout d'un moment, tu parles à un pauvre pecno, ils disent bon, c'est du RPG. Non, tu vois.
Alors moi, ce qui me fait peur surtout, alors certes, la vue est intéressante en elle-même, parce que le fait d'avoir une vue isométrique du dessus comme ça, tu sais, ça te permet de planifier en fait. Ouais. Parce que tu vois bien où sont les mecs et tout. Par contre, du coup, il faut faire un système où les mecs te voient pas à 15 km. Genre, tu vois les mecs ils te voient alors qu'ils sont en dehors de l'écran, par exemple. Et aussi le free running dans un jeu où t'es au-dessus et où tu vois pas les décors qui sont au loin. Pourquoi ça marche, Mirror's Edge, tu vois, c'est que tu peux planifier ta route, en fait. Tu vois ce qu'il y a devant toi. Donc, du coup, tu peux planifier à l'avance. Là, comme t'es vu du dessus, il y a des trucs qui sont hors champ de caméra que tu peux pas voir. Et j'ai peur que, par exemple, tu sais, il y a des moments où tu te mets à courir, tu vois, et tu te retrouves dans un cul-de-sac. Et les niveaux, enfin, je sais pas si vous avez vu, si c'est aussi vertical que ce qu'il y a dans la vidéo, ils vont devoir taffer, hein.
Ouais, mais après, tu vois, je veux dire, Mirror's Edge, tout le jeu est basé sur ça. Il faut que absolument cette partie-là soit réussie. Là, je me demande en fait si ça soit pas cloisonné en certaines zones fermées et au final tu peux pas te retrouver justement dans un cul-de-sac.
Est-ce que c'est plutôt ouvert ou est-ce que c'est un jeu linéaire?
Voilà.
Ça pose plein de questions.
Hein. Ouais, c'est ouais. Ça en fait. Ça nous interpelle et on veut savoir comment ils vont faire en fait pour réussir leur pari.
Bon. Alors, là, TH va bientôt reprendre la parole, parce que en gros, pour faire simple, il y a eu une vidéo qui a dévoilé le prochain Outlast, n'est-ce pas? Tu avais joué au premier, TH?
Oui.
Alors, je vais te poser une question simple, tu as vu la vidéo, moi et Ben, on n'y a pas joué, enfin, il me semble pas que tu y aies joué, Ben. Est-ce que, dans cette vidéo, qui est quand même assez longue, hein, je crois que c'est 4 ou 5 minutes de gameplay,
ouais.
Est-ce que tu as vu de la nouveauté, ou est-ce que c'est Outlast 1 plus?
En fait, c'est vraiment Outlast 1.
D'accord.
Non, mais sauf que, enfin, le problème pour moi, c'est que t'es à l'extérieur et plus enfermé dans un asile psychiatrique.
Alors, je rappelle, Outlast, c'est un jeu donc où tu joues un mec qui se retrouve enfermé avec des gens un peu dérangés, dirons-nous. Et en gros, il doit utiliser sa caméra pour voir dans le noir, en fait, parce que sa caméra, elle a une vision de nuit, si vous voulez, quoi.
Ouais.
Et donc, il met sa caméra devant lui. Alors, par contre, c'est la caméra avec la batterie la plus naze de l'univers. Hein. Ça, c'est le seul truc que je trouve un peu chelou dans Outlast. Et j'ai jamais vu des caméras avec une batterie aussi pourrie, quoi.
Ah, parce que ça reste du jeu vidéo, quand même.
Oui, non, mais ça reste du jeu vidéo. Mais si tu veux, ça va être toujours très bizarre quand tu joues à un jeu avec des graphismes aussi réaliste et tu vois la caméra qui se décharge en 3 minutes. Mec, tu t'es fait arnaquer, hein, sérieusement. Enfin bref. Et donc il utilise sa caméra pour se repérer. Le problème c'est que la caméra, donc il y a la batterie qui se décharge très rapidement, et comme elle se décharge très rapidement, il faut choisir avec parcimonie les moments que tu vas l'activer, donc pour repérer où sont les gens, te cacher, etc. quoi. Le premier c'était dans un univers très cloisonné, c'était un asile. Là, le truc c'est qu'on se retrouve donc dans une version plus ouverte, dirons-nous, dans un champ de maïs notamment. Alors moi par contre, là tout de suite comme réaction, je me suis dit quand même, je sais pas si le champ de maïs était une riche idée, parce que niveau décor c'est quand même super répétitif sa mère, quoi. Déjà, premier point. Et second point, j'ai pas l'impression que la formule est tant évoluée que ça, quoi, en fait. À part que le fait que ce soit plus ouvert, quoi. Et c'est justement ça qui dérange, j'ai l'impression.
Bah en fait c'est ça, parce que tu sais, dans le premier, bah t'étais dans un univers fermé, et bah ça jouait vachement sur la claustrophobie du personnage. Après, ce qui peut être intéressant dans le jeu, c'est justement le fait que, comme dans le premier, tu sais, tu peux pas attaquer d'ennemis parce que t'es un journaliste, t'as pas d'armes à feu ni rien, t'as juste ta pauvre caméra et des piles. Hein. D'ailleurs, je me demande encore qui utilise autant de piles de nos jours, quoi, quand tu vois que tout est rechargeable.
Déjà, qui utilise des piles pour une caméra, quoi. Non, mais tout le monde est sur batterie maintenant.
Je crois que le mec ou la nana qu'on joue dans le jeu s'est fait arnaquer, quoi, par le vendeur.
On va dire que c'était dans les années 90. Ça.
Après, le jeu, c'est vrai que tu peux te cacher dans un baril, et ce genre de choses-là. Voilà, ça va pas changer grand-chose. J'ai envie de voir, en fait, si ils vont apporter autre chose que ça, et surtout en termes de scénario, parce que c'est un jeu avec une histoire qui parle de pas mal de choses assez taboues dans les jeux vidéo, en règle générale, notamment aux États-Unis, par exemple, avec la religion, etc. Et aussi, il y a quelque chose qui est très intéressant pour moi, c'est il parle de psychologie, un aspect psychologique plus travaillé que dans le premier. Et moi, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup, parce que je suis quand même fan de Silent Hill.
Après, on l'a pas tellement vu hein, sur cette vidéo.
Non, mais voilà, mais ça c'est les promesses qu'il donne. J'ai envie de voir justement si elles vont être tenues. D'ailleurs, le premier Outlast, l'aspect qui m'avait le plus plu, moi, justement, c'était qu'on n'avait pas d'armes à feu, un peu comme dans Amnesia.
Bah, c'était totalement Amnesia, hein. C'est j'ai pas d'armes à feu et je me cache. La nouveauté, vraiment, c'était la caméra, quoi.
C'est le film Rec. Vous voyez cette caméra avec l'aspect infrarouge. Bah là, c'est exactement la même vue. On a vraiment l'impression, en fait, de jouer dans le film. Donc, il faut voir si c'est une suite qui confirme la bonne impression du premier, ou justement si c'était une suite, voilà, juste pour faire de l'argent en plus, quoi.
Alors Ben, est-ce que tu es une flippette ou pas?
Non, je ne suis pas une flippette. Non, je joue à Amnesia, donc après c'est pas forcément le genre de jeu qui m'attire le plus. J'avais testé Amnesia parce que voilà, c'était vraiment une nouveauté pour l'époque, donc ça valait le coup.
J'ai plus l'impression que c'est la cam de ta compagne, ce genre de truc.
Plus, ouais. Exactement, ouais.
Je garde là, elle est formidable. Hein, tu vois pas deux comme ça. Hein.
Donc, ouais, Outlast, j'ai pas joué au premier, mais typiquement, ça pourrait m'intéresser. Après, c'est à voir, voilà, si, comme le disait ATH, qu'est-ce qu'ils apportent vraiment dans celui-là. Est-ce qu'en termes de scénario, il y aura des trucs? Parce que si c'est pour se balader que dans les champs de blé tout le long du jeu, ça vaut pas le coup non plus, quoi. On sait que généralement, voilà, dans ce type de jeu, il y a bien un moment où on va rentrer dans un cimetière, dans une église, dans un asile. Enfin, il va bien y avoir un moment comme ça, quoi.
Bah, surtout, j'espère que les environnements seront un peu plus variés que ça.
Ouais, voilà, ouais.
Parce que moi, c'est le truc vraiment qui m'a dérangé sur cette vidéo, quoi. Un champ de maïs. Super.
Bah, après, voilà, peut-être que c'est juste un petit passage du jeu et que le reste du jeu se fera dans un endroit un peu plus clos. Ça, pour l'instant, voilà, on n'en sait pas vraiment plus. Sur cette vidéo, en tout cas, c'est vrai que si le jeu se base, enfin, est beaucoup basé sur le fait d'être à l'extérieur et notamment près des champs de maïs, ça devient un peu répétitif, ouais.
Ouais, mais après, enfin, moi, je pense que la sensation de peur, quand même, elle doit être présente. Tu sais, quand t'es au milieu de ce champ de maïs et t'entends tous les autochtones autour en train de faire des trucs un peu bizarres.
De peur ou de stress? C'est pas la même chose.
Bah, je ressentirais les deux, quoi, à ce moment-là. La peur de me faire choper par l'ennemi et le stress de savoir qu'ils sont autour, en fait.
Parce que moi, si tu veux, la sensation que j'avais en regardant cette vidéo, en fait, c'est que j'avais l'impression de voir un film d'action, tu sais, où t'as le héros qui est en train de fuir dans un champ de maïs. Enfin, tu sais, en tête une filmographie où il y a ce genre de scène. Et du coup, j'avais pas l'impression d'être dans un jeu d'horreur, en fait. C'est très particulier. Je sais pas si c'est à cause de l'ambiance sonore, mais l'horreur, pour le moment, en tout cas, dans ce que j'ai vu de la vidéo, je la voyais pas, quoi.
Oui, pour le coup, là, la vidéo, elle est plus basée sur le stress de se faire attraper que sur l'horreur, c'est sûr.
Après, comme tu l'as dit, bah justement, dans cette vidéo-là, les autochtones, on les voit pas. On voit juste un peu au loin des lampes de poche et tout. Je suis quasiment sûr, au bout d'un moment, on va arriver, même au tout début du jeu, il y a un mec qui va se faire découper la tête par un boucher du coin. Ça, c'est le genre de scène que je m'attends à voir dans le jeu, quoi.
D'accord, ça a l'air charmant. Bon, allez, je vous propose que nous passions à la suite et on va parler de Nier Automata. Nier, je rappelle, le premier épisode, c'était un jeu assez particulier, hein, parce que c'est un jeu en gros qui mélangeait exploration, action RPG, mais action RPG un peu particulier parce que, enfin comment dire, c'était un action RPG à la Kingdom Hearts, mais avec un bullet hell en fait. Vous voyez les jeux de shoot là, quand t'as plein de trucs à l'écran, bah c'est ça. Et voilà, donc on a la suite qui est prévue par Platinum Games, donc parce que très honnêtement, ça a toujours été la faiblesse des Nier ou des Drakengard, parce que je rappelle que Nier et Drakengard sont liés, hein, scénaristiquement. Même si ça se déroule pas dans le même univers, enfin, pour rappel, pour ceux qui n'ont pas fait, sans trop spoiler les fins, on va dire qu'il y a une des fins qui fait que les mecs se téléportent dans notre monde à nous et que ils foutent la merde, en gros, et Nier est la conséquence de ça. Voilà. Ah oui, aussi très important, Nier c'est un jeu où il y avait une histoire qui était, disons, extrêmement prépondérante, où t'avais un twist scénaristique de psychopathe. En gros, le gros point fort du jeu, c'était son scénar, l'exploration. Son point faible, c'était plutôt son gameplay, parce que même si le gameplay était original, on va dire que ça manquait de pêche quand même. Et là, il y a Platinum qui va s'atteler au dossier, quoi. Et donc, on a pu voir une vidéo de gameplay récemment. Alors, je voulais vous demander tout simplement, messieurs, qu'en avez-vous pensé? ATH, je sais que tu es fan de Kingdom Hearts. Ben, bon, tu es amateur de RPG japonisant en
Kingdom
général.
Kingdom Hearts aussi.
Oui, Kingdom Hearts aussi, voilà. Mais on va dire que voilà, tu es très, très, très consommateur du JRPG en général, quoi. Mm-hmm. Est-ce que ça vous a donné envie? Non? Pourquoi? Alors, je précise, hein, c'était une vidéo d'une alpha. Donc, ouais, il y avait des soucis techniques dessus. Je vous mettrai les liens vers les deux vidéos. Personnellement, il y a quand même un truc qui me fait peur. Nier, c'est un jeu qui date de 2006 ou 2007, je crois. Il y a une série qui est passée par là. Entre temps, c'est Demon's Souls, Dark Souls, tu vois. Et j'ai peur qu'en termes de level design, en fait, ça va super dater quand tu y joues, quoi.
Ouais, mais enfin, c'est un jeu Platinum Game. Et Platinum Game, ils sont pas connus pour de faire des level design très shiny. Ils sont très forts pour faire justement des jeux à système et un gameplay ultra nerveux. Platinum Game, pour rappeler, c'est quand même les mecs qui ont fait Bayonetta, qui ont aussi fait le Metal Gear Rising Revengeance. Enfin, moi, quand je joue un jeu Platinum, mon cerveau est déconnecté. Après, je sais que le premier Nier que je n'ai pas fait a une histoire et un scénario très très très...
Il faut absolument que tu le fasses à TH, je suis sûr que ça va te plaire. Même s'il est daté sur certains points, c'est un jeu à faire, je pense.
Bah, je pense que je vais suivre ton conseil, et puis en fait tout le monde me l'a vendu comme un jeu avec une histoire assez forte, et le problème avec Platinum Games, c'est qu'ils je les ai jamais vus faire une histoire qui tenait le coup, quoi. C'est toujours une histoire...
Ah oui, non mais alors attention, c'est Platinum Games qui s'occupe du gameplay, mais toute l'équipe qui s'est occupée du scénar, elle est dessus en fait. Notamment le mec, okay. Je sais pas si tu te rappelles la conférence Square Enix, tu sais le mec qui avait un masque chelou là.
Ouais, ah ouais.
Bah c'est lui en fait qui s'occupe du scénar. Vraiment, Nier, c'est un jeu d'auteur, en fait. C'est ça qu'il faut dire. C'est que t'as un mec derrière qui a une vision de son univers, si tu veux. Parce que je rappelle encore une fois, Nier, c'est la continuité de Drakengard dans un univers parallèle, qui a des liens scénaristiques et tout ça. Donc, au niveau scénar, moi, je me fais pas de soucis, en fait. C'est plus comment tout ça va se goupiller, en fait. Tu vois, qui m'interroge. Parce que Nier, il y a un aspect exploration dans le jeu qui est assez important. Platinum, c'est pas forcément leur cam, quand on va dire, ce genre de choses. Nier, c'est aussi un jeu où les choix sont importants. Tous les jeux du mec, que ce soit Dragon Guard ou Nier, t'as minimum 4 fins différentes, tu vois.
Mais c'est si on a, justement, si on n'a pas joué à Dragon Guard, est-ce qu'on peut faire Nier sans problème ou bien ça pose des problèmes?
Ah oui. Pour faire simple, Nier, c'est un jeu post-apo, si tu veux. Voilà. Mm-hmm. Et le post-apo, il est dû à la fin de Dragon Guard. Voilà.
Ok.
Une D'accord. des fins de Dragon Guard, je précise, hein. Parce que des fins, t'en as 36 000 dans Dragon Guard. Et il y a une des fins qui fait que, ben, si tu prends cette fin-là, ça explique le début de l'univers de Nier, en fait. Après, ça peut être sympa d'avoir fait Dragon Guard, parce que quand tu comprends la référence, si tu veux, t'as le frisson, quoi. Tu dis, ah oui, merde, c'est ça, en fait. Tu vois? Mais sinon, c'est pas du tout indispensable, mais vraiment pas, quoi. L'histoire du jeu se suffit largement en elle-même. C'est plus pour le détail et pour comprendre la cosmologie de l'univers. Surtout que Dragon Guard, en plus, le seul Dragon Guard qui a un lien avec Nier, c'est le premier, en fait, parce que les autres, aucun rapport. Et le truc, c'est que ce Drakengard-là, il est très mauvais, enfin, en termes de gameplay. Et justement, c'était jusque-là, comme je disais, c'était plus ou moins la faiblesse des jeux de cet auteur-là, c'est qu'il a toujours travaillé avec des gens qui, on va dire, enfin, de mon point de vue en tout cas, faisaient des gameplays assez faiblards et pas très intéressants. Genre, le premier Drakengard, c'est du Musso, quoi. Enfin, du Musso, mais genre, très bas du front, quoi. Vraiment pas super passionnant. Nier... Par contre, ils avaient un peu amélioré le truc. Il y avait vraiment une idée originale, c'est qu'on va faire, entre guillemets, le gameplay d'un bullet hell dans un jeu en 3D, tu vois. Sauf que tu sentais quand même que les mecs derrière, ils avaient pas la maîtrise que pouvait avoir justement un studio comme Platinum. Et moi, je me dis, qu'est-ce que ça va donner avec des mecs comme Platinum Games derrière, quoi. Je suis très très curieux de voir ça.
En tout cas, de ce qu'on a pu voir, on est clairement dans la lignée des anciens jeux Platinum. Et ça a l'air ultra dynamique, ultra nerveux. Donc moi, enfin... Je vais faire un peu mon fanboy là-dessus, mais quand il y a écrit sur la boîte Platinum Game, déjà ça, tu vois, tu attires ma curiosité fortement.
Ben,
je sais pas. Alors, je connais pas la licence. J'ai jamais joué à ceux d'avant.
Même chose qu'à TH. Il faut absolument que tu y joues. C'est impardonnable.
Mais du coup, là, ça m'attire pas plus que ça. Et ça m'étonne parce que j'aime bien ce style de jeu aussi. Et je sais pas là si alors.
Moi je pense que c'est la direction artistique qui est assez quelconque.
Ouais, peut-être que ça vient de là parce que c'est vrai que Kingdom Hearts j'aime beaucoup parce que c'est l'univers qui est vraiment sympa. Et du coup en fait ça me choque moins parce que c'est un univers plus cartoon entre guillemets, donc c'est moins choquant que les personnages sautent dans tous les sens et tout.
Là Nier, je trouve que pour le coup l'univers il colle à peu près au chara-design quoi. Alors même si alors pour le coup j'ai un souci avec le chara-design, c'est le côté moyen tissu plus la nana a l'air d'être forte en fait, ouais. Si vous voyez ce que je veux dire, ça me dérange assez fortement, mais bon ça c'était déjà le cas dans le premier hein, je veux dire il y avait une nana tu voyais son string donc voilà respect de la femme zéro alors par contre en fait moi ce que j'aime bien dans l'univers de Nier c'est ce côté. Et je sais pas si on va le retrouver dans le jeu parce que pour le moment on a vu que des décors industriels en fait.
Oui voilà on voit qu'une seule zone du jeu donc c'est difficile de juger aussi vraiment ouais.
Et le truc c'est que Nier en fait c'est vraiment un jeu qui mélange plusieurs styles quoi. D'un côté t'as des zones industrielles et d'un autre tu vas visiter des temples engloutis style égyptien tu vois ou un cas ou ce genre de choses. C'est-à-dire que comme c'est un univers post-apo où t'as je crois plus de 2000 ans qui sont découlés depuis l'apocalypse. Des fois, tu retrouves des décors qui datent de l'ère justement où il y avait encore les immeubles, tout ça. Enfin,
oui, t'as des éléments
les décors
qui te rappellent
de notre époque à nous, tu vois, ouais. De notre époque moderne. Et de l'autre côté, tu trouves des décors un peu plus dépaysants. Et c'est de ce contraste-là entre les deux types de décors, enfin, qu'il y avait une certaine notion de voyage. Alors après, justement, moi, mon souci là-dedans, c'est que le premier Nier, en fait, il y avait l'idée, mais c'était pas assez travaillé au niveau de la DA. C'est pas Dark Souls, tu vois. C'est pas un jeu où tu arrives et où tu dis putain les décors c'est un truc de malade. Et je trouve dommage si tu veux que y ait pas les moyens qui aient été mis pour mettre le paquet là-dessus quoi aussi. Parce que je pense que l'expérience de jeu en serait décuplée quoi. Même si c'est vrai que le scénar a une place prépondérante dans le jeu, ce serait bien de travailler les autres aspects aussi quoi. Juste pour précision pour les amateurs de la licence. Alors ça se déroulera effectivement après le premier. Pour ceux qui ont joué au premier, ça se déroulera après la quatrième fin. Je n'en dirai pas plus. Vous savez très bien de quelle fin je parle, hein. Dans tous les cas, si vous n'avez pas fait Nier le premier, moi je le dis, faites-le. On parle d'émotions dans le jeu vidéo. Moi, enfin, c'est un jeu où j'ai chialé. J'aurais pu en parler d'ailleurs dans le podcast dédié, n'est-ce pas? C'est un jeu où t'as un twist scénaristique qui te retourne le cerveau, mais un truc de malade. Et c'est rare dans le jeu vidéo. Enfin, vraiment, il y a très peu de jeux où, en termes de scénar, je me suis dit, ah ouais. D'accord, ok, respect.
Ouais, c'est peut-être ce qui me gêne dans la vidéo, c'est qu'on voit pas, en fait, tout ça, tout ce que tu dis, là. C'est vrai qu'on voit juste un peu de gameplay, donc c'est...
Ah, c'est du gameplay pur,
c'est voilà, c'est que du gameplay, donc c'est vrai qu'avec tout ce que tu dis, typiquement, c'est le genre de jeu qui me plaît. Donc après, ouais, j'attends vraiment d'en avoir plus pour me faire une idée un peu plus précise, mais c'est vrai que, par rapport à ce que tu dis, oui, c'est le style de jeu qui risque de me plaire, ça, c'est sûr. Hein.
Enfin, par contre, moi, le présentateur du jeu, enfin, le créateur du scénario, là, avec celui qui a son masque, il me fait flipper, quoi.
Lui, pour être dans Outlast, c'est un problème, c'est ça?
Je crois que c'est un mec qui a des problèmes, tu sais,
de ouais, qui veut pas se montrer en public.
Et ouais, enfin, c'est même pire que ça, je crois. Enfin, il me semble qu'il a vraiment des soucis. Il aime pas du tout être en public, tu vois. Enfin, c'est.
Ah, mais donc, du coup, est-ce que les scénarios sont barrés à l'image du personnage qu'on du créateur ou bien
ah oui enfin les scénarios alors ils sont très compréhensibles hein, c'est pas du tout ça mais ça respire pas la joie de vivre, hein, je vous le dis tout de suite. Hein.
Ah, et...
si vous faites une dépression, ne jouez pas à Nier, hein, parce que putain.
Et justement, parce que bon, t'as fait la référence Dark Souls dans le podcast à, par rapport à ça, mais est-ce que l'histoire justement, elle est cryptique comme dans un Dark Souls ou bien c'est
Elle est, pour le coup, c'est très mise en scène. Enfin, tu comprends ce qui se passe, quoi.
Ah d'accord.
Il y a très peu de trucs cachés. Ne serait-ce que parce que tu vois, Dark Souls, c'est un jeu qui bosse énormément ses décors. Qui te raconte énormément de choses par ses décors. En ce moment, je fais le 3, enfin, c'est un truc de malade. Enfin, ils te font passer des émotions par le décor qui est absolument... c'est grandiose, tu vois. Et Nier, les décors sont dégueulasses, quoi. Enfin,
enfin, de toute façon, Platinum, ils ont toujours fait des trucs assez linéaires et les...
Oui, c'est assez basique, ouais. C'est pas ultra travaillé.
Ouais.
C'est pas des univers de fou, ouais.
Parce qu'en fait, même, enfin, je veux dire, tous les autres titres Platinum que j'ai cités précédemment, tu regardes tous les titres qu'ils ont fait, c'est vide en fait à chaque fois que t'arrives. Mmh. Et en fait, la première fois que j'avais fait Metal Gear Rising Revengeance, je m'en étais pas rendu compte. Et la deuxième fois que j'ai fait, ben on avait un peu ces décors là, un peu industriels ou d'un moment dans le jeu. Et en fait, c'est que des couloirs avec rien à l'intérieur. Il y a, enfin, les murs c'est nickel, c'est propre, tu peux manger dessus.
Il y a pas de fioritures, il y a rien du tout. Même Bayonetta, tu vois. Enfin.
Ouais, non, mais c'est ça. Et à chaque fois que je...
c'est très lisse quoi.
En fait, à chaque fois que tu fais un jeu Platinum Game la première fois. Bah t'en prends plein la gueule parce que ils arrivent à te créer des boss toujours plus grands les uns que les autres. Au bout d'un moment tu te demandes si ta télé est assez grande pour les contenir quoi. Et sauf que
tout ce qu'il y a autour c'est voilà, assez classique finalement.
Level design zéro. Après voilà le gameplay etc, ils sont très très forts là-dessus. Et puis aussi quand t'as des explosions et tout, il y a tout qui te revient à la gueule.
Bah disons qu'ils savent donner du dynamisme à un jeu quoi.
C'est ça. Platinum pour moi c'est le jeu on va dire manga par excellence quoi. Il t'en met toujours plus jusqu'à ce qu'au moment tu demandes que est-ce qu'ils vont détruire la planète
ou ça va
comme
s'arrêter.
Voilà, tu vois comme dans Dragon Ball, ils détruisent des planètes au bout d'un moment les mecs, là tu te demandes est-ce qu'ils vont réussir à faire pareil quoi.
Bon, allez, on va terminer mon cher Ben avec une news The Witcher-esque, n'est-ce pas? Parce qu'on en sait plus sur Blood and Wine.
Ouais, on en sait un petit peu plus donc de ce nouveau DLC qui va se passer dans un nouveau royaume qui s'appelle Toussaint. Qui sera notamment très porté sur le vin, d'où le titre du DLC.
Bah, qui est très clairement inspiré de la France, hein, j'ai envie de dire.
Aussi.
une France, des contes de fées, quoi.
Ouais, alors après, pour l'instant, on n'en sait pas énormément plus. On a un petit descriptif sur sur comment sera ce royaume. Mais voilà, comme tu dis, si on lit le descriptif, on comprend vite que ça se base un peu sur l'idée que les gens ont de l'extérieur de la France. Donc voilà, c'est un peu à l'ancienne, on boit du vin,
on est des bons vivants.
Voilà, exactement, c'est un peu cet aspect-là, voilà, l'aspect, les clichés qu'il peut y avoir avec la France vue de l'extérieur. Pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup plus, on n'a pas de date.
On a eu des putains d'images chouettes, par
contre. Ouais, voilà, il y a quelques images qui en ont plein la gueule, c'est ultra coloré, ça change un peu, je trouve. Alors, ouais. Vous avez plus joué à moi que The Witcher. Moi, je suis resté au début du jeu, donc c'est vrai que la première zone, c'est pas très en couleur, c'est pas marqué. Là, c'est vrai que sur les images qu'on a, c'est ultra coloré, j'ai trouvé.
Bah, avec les champignons géants, enfin, ça fait très sous-acide par moment là aussi pour le
aussi,
coup.
Aussi, ouais. C'est l'effet vin, ouais.
Enfin, moi, ce que je trouve intéressant, par contre, en termes de setting, c'est que Toussaint, c'est une province de Nilfgaard. Par contre, c'est une province, on va dire, qui a une relative autonomie, dirons-nous, ce qui est assez rare, déjà. Donc, je pense que ça va être intéressant de découvrir pourquoi ils ont cette autonomie, tu vois, ce genre de choses. C'est aussi une province où il reste énormément de monuments elfiques, d'où aussi l'aspect architectural qui est assez particulier, parce qu'ils ont conservé apparemment énormément de monuments qui datent de l'époque des elfes. Et surtout, voilà, enfin, c'est, disons, moi, ce qui m'intéresse dans ce DLC, et pourquoi je suis sérieusement hypé, en fait, c'est que il s'inspire des tout premiers romans de The Witcher. Parce que il faut voir que dans The Witcher, il y a deux grandes périodes, en fait. Tu as, on va dire, ce qu'on va appeler la préquelle, qui raconte plus ou moins, allez, on va dire comme ça, la jeunesse de Geralt, même s'il n'est pas vraiment jeune, enfin, mais on va dire que c'est les premières aventures de Geralt, où là, t'as vraiment une ambiance conte de fées, etc. Et puis, tu as la seconde moitié de l'œuvre, on va dire, où là, on passe doucement d'un monde des contes de fées à un monde qui est dominé par les hommes, en fait. Et où le féerique disparaît. En fait, c'est ça que moi, j'aime beaucoup dans la saga The Witcher. C'est que, petit à petit, en fait, les sorceleurs, ils ont tellement bien fait leur boulot de chasser les monstres, si tu veux, que, bah, la magie disparaît. la magie au sens monstre, etc., oui, conte de fées,
l'aspect
disparaît.
L'aspect fantastique, ouais.
L'aspect vraiment purement conte de fées du truc disparaît. Et derrière, t'as le monde des hommes qui commence à arriver, et là, c'est le monde des complots politiques, des trahisons, des guerres, etc. Et pour le coup, tout ça, c'est vraiment un royaume, si tu veux, qui revient aux bases de la saga, où vraiment, enfin, je sais pas ce que t'en penses à TH, mais moi, je vois les décors, je suis ailleurs, quoi.
Non, mais, enfin, moi, je te rejoins totalement sur ce que t'as dit sur The Witcher 3. En plus de ça, le fait que, comme tu l'as dit, le monde de la féerie, des dragons, etc., disparaissent au fur et à mesure du jeu, on a déjà un peu cette question qui est posée dans The Witcher 2, et dans The Witcher 3, elle est abordée plus profondément, en fait, en termes de scénario, notamment dans une des fins de Geralt qu'on peut avoir, où il traite ce sujet-là. Par contre, tu vois, quand je vois ces décors et tout ça, avec cette palette de couleurs, je me dis que là, ça peut être le DLC, justement, qui vaut le coup, parce que on n'est plus dans la même région que le jeu de base.
Le premier DLC, c'était plus pour explorer un des personnages de la saga qui manquait, on va dire, depuis le début. Alors que là, vraiment, c'est le DLC qui change totalement le setting, quoi. Alors, ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'apparemment, de ce qu'ils disent, il va y avoir tout un aspect complot politique, etc. Enfin, on va dire que le royaume de Toussaint n'est pas aussi paisible qu'il en a l'air. Et enfin, bref. Moi, je suis fan. Les couleurs... Alors, d'habitude, hein, il faut savoir une chose avec moi, c'est que je n'aime pas les jeux utilisés avec des palettes de couleurs trop criardes, en fait. Mais là, je trouve que ça colle tellement avec le setting que ça passe crème, quoi.
Ah, mais moi, justement, les jeux avec beaucoup de couleurs, on en manque pas mal dans les grosses productions qu'on nous vend en ce moment. Dans les jeux vidéo, je préfère avoir un univers avec des couleurs complètement folles et qui essaie pas de singer la réalité par rapport à un jeu photoréaliste.
Ah non, mais je suis d'accord. Moi, ce qui me pose problème, c'est le mélange des deux, en fait. Si on devait un jeu ultra réaliste avec des couleurs fuchsia.
Ouais, après, enfin, vu que ça fait vachement féerie, conte.
Ouais, c'est ça.
Moi, au début, The Witcher, quand je commençais à en entendre parler, je pensais que c'était un univers où, qui allait être comme ça. En fait, dans ma tête, j'imaginais tel quel. Après, quand j'ai appris à découvrir la série, tout ça, je me suis rendu compte que, bah, justement, le règne des monstres, des dragons, etc., arrivait à son terme.
Cela dit, il y a des passages dans le premier, quand même, qui sont... Tu sais, le passage, je sais pas si tu te rappelles du premier.
Si, ouais,
mais,
ouais, je me rappelle.
Le lac, notamment, la première fois que t'arrives au lac, j'étais émerveillé, quoi.
Ouais, bah, après le premier, il se passe un peu avant les autres. Et donc, il y a encore un peu plus de démons à aller au cire, quoi. Même si dans les derniers, il y a encore des démons à aller au cire, mais tu
sais. Il y a que ça, j'ai envie de dire. Hein. C'est un des soucis de cohérence que j'ai avec le 3, d'ailleurs. C'est que, normalement, il y en a quasiment plus, mais là, c'est la fête du slip, hein, il y en a partout.
Ouais, surtout les enfoirés de noyeurs, quoi. Il y en a un tous les 5 mètres.
C'est ça.
Mais après, c'est vrai que, moi, j'aime bien les extensions, justement, qui prennent un parti différent du jeu de base, ou un parti pris esthétique différent. Par exemple, tu vois, Far Cry 3, et ce qu'ils ont fait avec Far Cry
Blood Dragon,
voilà. C'est enfin pour moi l'idée elle est géniale parce qu'il y en a qui font des DLC ou des extensions de jeu mais ils restent dans la continuité du jeu de base. Alors justement, c'est un DLC tout ça, il y a moins de risques financiers même s'il y en a quand même, mais allez-y, lâchez-vous, faites-vous plaisir sur la partie créative parce qu'aujourd'hui, on dit souvent que les AAA etc. sont souvent cloisonnés, qu'il n'y a pas de liberté etc. Au moins faites-vous plaisir avec les DLC, lâchez-vous même si ça se vendra pas, si votre jeu de base vous l'avez rentabilisé, bah c'est pas grave quoi.
Bon ben écoutez vivement. Ah non, mais là, je suis à fond sur le truc, là. Je pense que ça se ressent.
Non, mais je sais pas si, dans l'extension, il y aura des nouvelles personnes à aller affronter au Gwent ou pas, parce que sinon, moi, j'avais dit.
Ah oui. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont dit, hein. Il y aura un truc pour le Gwent.
Ah, intéressant.
Ah oui. C'est aussi pour ça que je suis hypé, en fait. Je précise.
Il manque plus que je puisse mettre la coupe de Yu-Gi-Oh à Geralt et c'est bon, quoi.
Ok, bon, allez, on boucle, monsieur Rideau, ça me paraît pas mal.
Ouais.
On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye à tous.
Salut.
Ciao.